Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre, c'est Gauthier qui nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gauthier.
Salut mon cher Théo.
Et ça faisait longtemps, Gauthier, qu'on n'avait pas soufflé de bougies ensemble. On se rattrape plutôt pas mal aujourd'hui parce qu'on fête l'anniversaire d'un disque contenant un tube intergénérationnel pondu par un groupe qu'on aime beaucoup. Dans ce groupe, on retrouve deux frères qui soutent parfois quelques bourre-pifs. On retrouve de l'alcool, des riffs de guitare simples mais diablement efficaces. Le tout se déroulant bien entendu en Angleterre.
Oasis ?
Oh là là ! Exactement ! Non, on va pas vous tartiner les tympans avec Oasis, promis. Figurez-vous que tout cela existait déjà il y a 60 ans en fait. Et ça se passait pas à Manchester, mais à Londres. Et les frères en question n'étaient pas les frères Gallagher, mais les frères Davis. Et aujourd'hui, on fête l'anniversaire du premier album de leur groupe intitulé Les Kinks. Alors, le groupe, l'album, les deux, hein, en fait. De la distorsion qui révolutionna le rock au tube You Really Got Me, en passant par une petite saloperie dont le sympathique Lennon avait le secret, ou encore l'influence de l'album sur les Who, à la fin de cette émission, vous saurez tout sur le premier album des Kinks. Et je vous propose de plonger dans le bain sans plus attendre, en s'écoutant Long Tall Shorty. They call me a long tall shorty, 'cause I know what love is all about. They call me a long tall shorty, 'cause I know what love is. Well, I could tell you where the lights go. Vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Aujourd'hui, on fête l'anniversaire du premier album des Kinks, groupe sur lequel tu voulais dire un petit mot, Gauthier.
On y reviendra hein, de toute façon, parce que je pense, Théo, qu'on fera une saga un jour sur ce groupe que toi et moi on adore et que tout le monde adore, même si tout le monde ne les connaît pas. Mais c'était l'occasion de parler de ce premier album et de ce contraste très étonnant. Un album vraiment pas chouette, parce que allez l'écouter si vous voulez chez vous, mais vous verrez, vous lâchez assez rapidement, mais qui a eu malgré tout un impact culturel absolument immense. Mmh. Et c'était l'occasion de parler justement dans cette émission de, à la fois de ces enregistrements pas top, mais des suites que ça donnera.
Et Gauthier, pour parler de cet album, bah, le plus simple serait peut-être de le resituer dans le contexte musical de l'époque. Alors, on est où et quand là ?
Alors, tu l'as dit, on est en Angleterre, Kings. Et le premier album du groupe The Kings, il sort le 2 octobre 1964 au Royaume-Uni sur le label Pye Records. Mm-hmm. Il fête donc aujourd'hui, Théo, tu l'as dit aussi très justement, ses 60 ans. J'allais dire que ça ne nous rajeunit pas, mais pas tellement, Théo, parce qu'on n'était absolument pas en vie à cette époque-là. Ça rajeunit peut-être pas nos parents, éventuellement, quoi qu'ils avaient 10 ans. Donc. Mais à l'époque, le rock britannique, qu'est-ce que c'est ? Ben, en fait, pas grand-chose, c'est des balbutiements, des premiers hurlements. Les Stones viennent de sortir leur premier album en avril. Les Beatles, eux, viennent de sortir le 3e, le dénommé A Hard Day's Night, en juillet. Et autour de ça, on a de la soul, beaucoup, avec le Supreme, les Temptations, Dustin Springfield, tout ça venant des États-Unis.
Ouais.
On a les Neo Beach Boys, dont on a parlé le mois dernier. On a aussi ce cher Bob Dylan, tout jeune à l'époque, avec sa petite tranche de jeune étudiant. Et les Kings qui débarroulent en tapant avec un son bien différent de celui de notre cher Bob Dylan notamment. Un autre extrait pour se faire plaisir, mon cher Théo, la chanson So Mystifying. Chanson pas ouf.
Non, bon, c'est mignon.
Oui, c'est mignon.
Et Gauthier, je crois que comme tout le monde à l'époque, les Kings ne sont pas les rois de la composition originale.
Ah non, alors on va pas revenir sur quelque chose qu'on a déjà dit 25 fois à nos auditeurs, mais effectivement, l'usage à l'époque n'est pas forcément de composer. C'est les Beatles qui amèneront ça dans la pop, on va dire, dans la music pop. Les Kings, eux, font beaucoup de reprises. La chanson avec laquelle on a... Non, c'est pas celle avec laquelle on a ouvert l'émission, mais on retrouve, par exemple, sur cet album, Long Tall Sally, qui est une reprise de Little Richard. Voilà, on compose 2-3 trucs, mais on fait surtout beaucoup, beaucoup de reprises.
Et cet album, Gauthier, très court, puisqu'il contient certes 14 morceaux, mais pour une durée totale de 32 minutes.
Oui, on abat, voilà, c'est quasi punk.
Ça, on voit. Il ne connaît pas un succès fou, même lorsque tu l'écoutes en 2024. Quoi.
Non.
Il n'a pas bien vieilli.
Non, alors, à l'époque, il n'avait pas très, très bien fonctionné, et aujourd'hui, effectivement, il a affreusement mal vieilli. Puis quand tu connais la discographie des Kings,
et
c'est
oui.
vrai que tu ne te précipites pas sur le premier. Je suis allé chercher la chronique, notamment, du magazine AllMusic qui a la dent dure, c'est le moins qu'on puisse dire, je les cite, c'était un décor minable et décevant avec une production étonnamment mince. Les quelques morceaux que le producteur Shel Tolmie a écrit pour le groupe, à savoir Bald Headed Woman ou I've Been Driving On Bald Mountain, il y a vraiment un truc avec Bald d'ailleurs dedans.
Oui, ça veut dire chauve,
voilà.
Bald.
Était tout simplement abominable. alors, la critique est un peu méchante parce que la production minimaliste, il faut se replacer aussi dans l'époque. Hein, mais
bon. Ouais, bah, enfin, en tout cas, les voici rhabillés pour l'hiver, ces pauvres Kings. Et comme tu le disais il y a quelques instants, on n'a pas une tonne de compos originales. Hein.
Non, on a une flopée de reprises. Donc, je le dis, hein, Long Tall Sally par exemple. Je peux vous en mettre une autre, hein, une reprise d'un autre tube, je crois, à l'époque américaine. C'est la chanson Too Much Monkey Business. Mais là aussi, reprise façon Kings. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business. Me and a big bottle. 7 o'clock in time, try to line me up a creek till you come back. Oh, I tried, you can pay me next week. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business.
Mais Gauthier, on n'a pas que du Chuck Berry ou du Bob Dylan sur ce disque.
Ouais, ça sonne très rock américain, effectivement.
Ouais, vraiment. On a également des morceaux originaux que l'on connaît tous. On va pas faire trop de mystère parce que j'ai levé le voile sur ce morceau dans l'édito. Gauthier, parle-nous de You're Away They Got Me.
C'est effectivement la chanson qui va tout changer à la fois pour les Kings, mais aussi, on parlait d'un album avec un impact culturel immense, c'est cette chanson qui va avoir un impact culturel. Elle va naître au départ pas sous la forme que l'on lui connaît, puisque la première version qui avait été enregistrée par les Kings était beaucoup plus lente. Et puis elle plaisait pas aux Kinks, qui vont avoir la chouette idée, en payant de leur poche, et parce que leur producteur de l'époque, qui décidément était vraiment quelqu'un de top,
qui avait nez creux.
Oui, nez creux, et qui faisait plein de chansons sur les chauves, trouvait qu'il fallait laisser comme ça. Non, les Kinks vont payer de leur poche pour la réenregistrer. Nice move, puisque c'est la version Kinks, on va dire, qui va bien évidemment devenir éminemment célèbre.
Vous le savez les amis, si vous nous suivez depuis un petit moment, lorsqu'il y a un tube, il y a souvent une part de hasard derrière. Raconte-nous Gauthier, comment est né You Really Got Me?
Alors c'est le manager des Kinks de l'époque, pas le producteur justement, Larry Page, qui va les encourager à avoir une petite démarche commerciale assez simple, c'est-à-dire qu'on prend les tubes qui marchent très bien à l'étranger, de préférence aux États-Unis, et on les enregistre sur le label dans une version, on va dire, anglaise. À l'époque, il y a une petite chanson un peu rock lo-fi avec un riff très simple mais puissant et trois accords au sécateur, on va dire, qui fonctionne assez bien outre-Atlantique. Théo, on en avait parlé l'année dernière de cette chanson, c'est l'inénarrable Louis Louis. Je vous invite vraiment à réécouter l'émission qui vous apprendra beaucoup de choses, là aussi sur une chanson qui a eu un impact monumental pour la musique. Et lorsque les frères Davis en fait vont essayer de la rejouer en studio, ils sont jeunes encore à l'époque, on va dire que ils n'ont pas l'oreille qu'ils auront en fin de carrière, et en essayant de la reproduire, ils vont inverser notamment le riff de guitare, donc ils vont se planter en gros, et ça va donner le riff absolument assassin de Really Got Me.
C'est
donc
génial.
Sachez-le, si vous voulez faire une bonne chanson, peut-être contentez-vous simplement d'enregistrer à l'envers une chanson qui a marché.
Tu prends Wonderwall
et tu mets le riff dans l'autre sens. Noël Gallagher a probablement déjà fait une chanson.
Certainement. Et Gauthier, si les Kinks avaient manqué à l'époque d'un soupçon de motivation pour sortir ce tube, il aura suffi que John Lennon, avec l'empathie qu'il caractérise, les titille un peu pour que ça vienne d'un coup. Raconte-nous ça.
Oui, Lennon, dont on avait aussi parlé dans notre saga Beatles, qui pouvait être parfois un sacré connard. Mmh. Et à l'époque, les Kinks avaient été invités pour faire la première partie donc des Beatles, qui commençaient à être un petit peu célèbres. Lennon attrape les Kinks au début du concert, qui sont à l'époque incapables de percer avec leur premier single. Ils en avaient sorti deux, je crois, sauf erreur de ma part. Et donc, Lennon, qui a toujours la réplique assassine, va leur dire qu'ils sont éminemment sympathiques, mais qu'ils ne sont là que pour chauffer la scène. Piqués au vif, les Kinks vont monter justement sur scène et vont assassiner le public justement avec l'une des premières versions live de cette chanson qui deviendra iconique. On vous la mettait, ça fait 5 bonnes minutes qu'on en parle. C'est You Really Got Me, c'était la chanson pour faire fermer sa gueule à ce bon John Lennon et Dieu seul sait comme ça a marché.
Que ça fait du bien, You Really Got Me des Kinks. Ce tube Gauthier, on le connaît tous, mais on est loin de mesurer l'impact qu'il a eu sur le rock à l'époque.
Alors, un des premiers impacts, Théo, parce qu'on oublie souvent de le dire, mais un courant musical, entre guillemets, c'est, ça vient souvent d'une innovation avec son, le son, quoi, entre guillemets. Je passe sur toutes les inventions de studio des Beatles, etc. Enfin, on pourrait en faire des heures, mais peu importe. Je vais citer l'un des principaux intéressés, à savoir Dave Davis, donc l'un des frères Davis, qui disait ça au Guardian. En 2013, ma chérie d'enfance, Sue, est tombée enceinte et nous voulons nous marier. Mais nos parents ont dit que nous étions beaucoup trop jeunes et ils nous ont séparés. J'étais un enfant rebelle et en colère de toute façon. Et cela a eu un profond effet sur moi. J'étais plein de rage. Un peu plus tard, j'étais très dépité et je m'amusais avec une lame de rasoir. J'aurais facilement pu me couper les poignets. Mais j'avais un petit amplificateur vert. Et c'est vrai que c'est mieux que de se couper les poignets. Un El Pico, une marque que je ne connaissais pas du tout, qui sonnait, pardon, je cite Dave Davis, comme de la merde. Et je me suis dit, plutôt que me saigner, je vais le saigner lui. Et donc j'ai coupé le cône du haut-parleur, donc une des pièces qui est à l'arrière du haut-parleur. Et cela a changé le son de ma guitare. Puis, quand j'ai câblé cet ampli à un autre ampli, un Vox AC30, cela l'a rendu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Petite anecdote un peu longue pour vous dire que ce petit El Pico vert, endommagé par ce bon Dave Davis, est maintenant largement cité dans l'histoire de la musique comme l'invention ou l'une des inventions de la disto.
De la distorsion.
Ouais, de la distorsion sur un ampli de guitare. En gros, si vous voulez faire un bon son crado qui est sur une gratte, et ben on met de la disto. Et ben c'est ce bon Dave Davis qui a eu l'idée.
Et c'est ainsi que les Kings ont contribué à la révolution du rock en l'élevant à son son le plus brut.
Alors, on pourrait... C'est vrai qu'il faut essayer...
À l'époque.
À l'époque. Et puis, il faut replacer dans son contexte parce que ceux qui ont entendu notre émission sur les Kingsmen et Louis-Louis vont nous dire, mais attendez les gars, vous aviez déjà dit que c'était Louis-Louis qui avait révolutionné le son disto. En fait, les Kings vont un peu créer, on va dire, un lien dans ce que va devenir plus tard la musique à riff puissant.
Parce que t'as le rythme en plus, là.
T'as le rythme. Puis c'est un peu mieux enregistré que Louis-Louis des Kingsmen, qui est quand même un beau bordel, avec ce que sera plus tard le punk, le garage américain, etc. etc. Et ils seront un peu le trait d'union entre Louis des Kingsmen, donc qui brille quand même par son côté très amateur, le truc des Kings est plus propre, comme tu le disais très justement, et un autre groupe qui est souvent cité comme eux, les premiers punks, avant les punks, même quasiment 10 ans avant les punks, à savoir les Stooges. En fait, on pourrait considérer que You Really Got Me, c'est le lien entre Louis-Louis et une chanson que sortiront les Stooges plus tard, qui est encore une fois connue comme peut-être le premier pamphlet punk, à savoir la chanson I Wanna Be Your Dog. Et c'est vrai que si vous pensez à Louis-Louis, que vous pensez à la disto de notre cher Dave Davis, et que vous écoutez I Wanna Be Your Dog, que je vais vous mettre maintenant, on se dit qu'il y a une sorte de parenté, une sorte de paternité qui continue de génération en génération. Théo, pour tes oreilles et pour les oreilles de nos auditeurs, le riff sanglant d'I Wanna Be a Dog des Stooges. Voilà mon cher Théo, sans la disto de ce bon Dave Davis, il n'y aurait pas ça, sans ça il n'y aurait pas les punks, et sans Louis-Louis il n'y aurait pas eu les Kings.
Et ouais, et la boucle est bouclée.
La boucle est bouclée.
Et ce n'est pas tout Gauthier, parce qu'en plus des tubes des Stooges et des Kingsmen, nos amis ont également influencé un autre grand groupe, les Who.
Oui, et alors c'est marrant parce que les Kings vont faire You Really Got Me, excuse-moi, en essayant de jouer Louis-Louis mais qu'ils n'arrivent pas à jouer. Et les Who, ils vont essayer de jouer You Really Got Me, mais ils vont pas y arriver à l'oreille. Et ils vont composer eux-mêmes une autre chanson qui deviendra un tube absolu pour l'époque. On en avait parlé, Théo, quand on avait chroniqué le premier album des Who, il y a, je crois, deux ans. Quelque chose comme ça. Et je vais citer Roger Dartley au Q Magazine, pardon, en 94. Des groupes comme les Kings... Alors, Dartley, pardon, excusez-moi, c'est le chanteur des Who. Des groupes comme les Kings ont commencé. Ils ont probablement été la plus grande influence sur nous. Ils ont certainement eu une énorme influence sur Pete Townshend, le compositeur, on va dire, des Who. Et c'est grâce aux Kings que Pete Townshend a composé I Can Explain, pas en tant que copie directe, mais très certainement très dérivée de la musique des Kings. Et Théo, je vais te faire écouter I Can Explain, et c'est vrai que quand vous vous remémorez You Really Got Me, ça ressemble quand même vachement. Voilà Théo, quand des mecs imitent des mecs qui ont eux-mêmes imité des mecs, ça donne I Can't Explain.
On peut dire qu'il y a comme un petit air en effet. Ouais.
Ça ressemble vachement.
Et donc Gauthier, le succès de ce tube qui est You Really Got Me ne se dément pas à travers le temps évidemment.
Alors le magazine Rolling Stones l'a classé 82e chanson des 500 plus grandes chansons de tous les temps, ouais. Et au 4e rang des chansons les plus importantes pour ses riffs de guitare. Et en 2005, la chanson, alors là attention parce que c'est pas piqué des hannetons, a été élue meilleure chanson britannique de la décennie 55-65.
Alors, quand tu sais ce qui est sorti.
Ouais, c'est pas la meilleure décennie non plus, parce que 65, les Beatles sont vraiment tout petits, les Stones aussi et tout, mais il y avait quand même 2-3 chansons pas dégueu.
Ouais.
Ça reste quand même assez classe, parce que la chanson britannique, bon, ça reste une référence. C'était un sondage qui avait été fait par la BBC.
C'est ouais, je trouve ça fou.
Ouais,
l'anecdote
encore une fois,
est dingue.
C'est plus classe d'être la chanson britannique des années 65-75 que 55-65, ouais, mais ça reste quand même assez valeureux.
C'est déjà très chic.
Oui, c'est très chic.
Et avant de se quitter, Gauthier, un petit mot sur le côté international des Kings, qu'ils n'auront au final jamais développé, et pour cause.
Oui, et c'est très amusant parce que, en fait, c'est une révolution bruyante, punk,
ouais,
très
ouais,
agressive,
ouais.
Pour un groupe qui, en fait, pour ceux qui connaissent la discographie des Kings, mais ceux qui ne la connaissent pas, précipitez-vous, est en fait éminemment so British. Et comme tu le dis très justement, les Kings sont devenus so British presque par nécessité, puisqu'ils n'avaient pas le droit d'aller aux États-Unis. Je crois qu'ils avaient fait une tournée aux États-Unis qui s'était effroyablement mal terminée, où les deux frères faisaient que se battre, parfois même entre eux, ou si ce n'est avec le public, étaient tout le temps bourrés, etc. Et donc ils seront interdits de production aux États-Unis. Quand tu ne peux pas, à l'époque notamment, aller aux États-Unis, ça,
ouais,
sonne
t'es foutu.
Voilà, ça sonne peu ou prou le glas de ta carrière internationale. Et donc les Kings se recentreront, même si je pense qu'ils avaient ça dans leur ADN depuis le début, ils avaient toujours cette espèce d'élégance, alcoolique certes, mais élégance, so-british. Ils se feront connaître après, beaucoup plus tard, par leur sophistication et l'élégance de tube qu'on va se mettre en sortie, si tu veux bien. Mais voilà, c'est l'histoire des Kings, ça jamais des losers, parce que quand on se souvient aussi de la musique anglaise, tu te souviens des Stones, de Led Zeppelin, les Beatles, et généralement on ne cite pas les Kings.
Il est trop méconnu.
Trop méconnu.
Trop méconnu.
À jamais loser.
Chers amis, cette émission touche à sa fin. On va se quitter sur un autre. Vas-y, dis-moi.
Être à jamais du loser est aussi un grand manifeste punk.
C'est vrai.
C'est vrai.
Born Toulouse.
Born Toulouse de Johnny Thunder.
On va se quitter sur un autre morceau sublime des Kings, sorti sur l'album mythique Face to Face en 66. Ce morceau, c'est Sunny Afternoon, que vous connaissez certainement. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur le site de Radio Présence, mais également sur toutes les plateformes de podcast disponibles. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour le deuxième épisode de notre saga consacrée à David Bowie. Une très belle semaine à vous. Ah, tu as un petit mot encore.
Une très belle semaine à toi. Théo, une petite précision étant que j'ai choisi Sunny Afternoon qui est tiré de Face to Face, comme tu le dis très justement. Mm-hmm. Pour nos auditeurs, si vous voulez rentrer dans la discographie des Kings par ordre chronologique, commencez par Face to Face, qui est probablement leur premier très très bon album et facilement accessible. Commencez pas avec Kings, celui qu'on vient d'écouter, qui pourrait vous en écœurer. Voilà.
On se retrouve la semaine prochaine, les amis. Salut.
Salut Théo. The taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon, and I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. So pleasantly live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime.
friends run off with my car and gone back to her ma and pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. So pleasantly.